7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons éducation comme chaque semaine. Et en cette journée internationale des professeurs de français, pourquoi apprendre le français en Afrique anglophone? Le nombre de francophones, certes, augmente sur le continent africain grâce à une natalité très dynamique. Mais côté anglophone, pourquoi décider d'apprendre le français quand on parle déjà une langue tellement international comme l'anglais? Quelle est la situation du français dans ces pays? Y a-t-il pénurie de professeurs de français? Quel impact aussi a eu la pandémie sur l'enseignement de cette langue? Nous allons en discuter avec nos invités. Bonjour Jean-François Hans.
Bonjour Emmanuel.
Jean-François Hans, vous êtes délégué géographique Afrique, Océan Indien, Asie et Océanie à la Fondation Alliance Française. Nous sommes également en ligne avec Marc Boisson. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes le secrétaire général de la Fédération internationale des professeurs de français, donc la FIPF, qui existe depuis une cinquantaine d'années, et vous coordonnez cette journée internationale des professeurs de français. On sera aussi en ligne, nous sommes déjà en ligne d'ailleurs, avec un professeur de français au Nigeria, Muftao Tidjani, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous en direct aussi. Vous enseignez à l'université Amadou Ellor à Azaria, dans l'état de Kaduna, dans le nord du Nigeria. Et vous êtes aussi secrétaire général de la commission Afrique et Océan Indien à la FIPF. Et quant à vous, les voisins, vous avez la parole, que vous soyez enseignant, que vous soyez apprenant de français. Vous nous appelez gratuitement avec une simple connexion internet sur notre serveur WhatsApp. C'est le 33 7 64 45 51 41. C'est le moment de vous exprimer si le sujet de l'apprentissage du français vous intéresse, ou de poser des questions aussi, pourquoi pas, à nos invités. Et puis en fin d'émission, comme chaque semaine, la chronique d'Ibrahima Girou, psychologue, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, comment assumer l'autorité à distance pour tous les parents qui vivent éloignés de leurs enfants? Je vous lis quelques questions ou réactions de nos auditeurs. Tiens, Vincent est à Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour les voisins, pourquoi faire une journée internationale des professeurs de français? Ça répond à quel besoin? Ça, c'est une question pour vous, Marc Boisson.
Avec plaisir. Donc, cette journée internationale des professeurs de français, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'elle n'est pas une nouvelle journée de la francophonie. C'est une journée spéciale pour célébrer les professeurs de français, pour rendre hommage aux enseignantes et aux enseignants de français dans le monde. Elle a donc bien une particularité, une légitimité d'ailleurs qui est de plus en plus manifeste, puisque cette année nous en sommes à la deuxième édition, avec un succès qui se confirme pleinement.
Oui. Alors, on parle bien des enseignants de français langue étrangère, mais c'est vrai que d'un point de vue plus général, il n'y a pas de langue française s'il n'y a pas de professeurs de français, y compris d'ailleurs en Afrique francophone, Marc Boisson.
Eh bien, écoutez, quand nous parlons des professeurs, la fête des professeurs de français, ce sont effectivement les professeurs de français langue étrangère, mais également les professeurs de français langue seconde et également les professeurs de français langue maternelle. Il s'agit de la célébration de l'ensemble des enseignants de français.
Un message de Bouna, qui est directeur d'école à Nouakchott, en Mauritanie, donc un pays qui est dans la zone francophone. J'habite un pays où le français n'a pas toujours bonne presse. Cette langue est considérée comme la langue du mécréant, la langue de ceux qui nous méprisent. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la diversité est une richesse. Le monde est compris par chacun selon son passé, son vécu, son approche. Et dans ma langue, je ne connais pas l'équivalent des mots comme amour, égalité. Bon, quand même, le mot amour, ça m'étonnerait que ça n'existe pas. Mais de la même façon, je connais des mots assania, qui est l'arabe mauritanien, qui n'ont pas d'équivalent en français. Voilà le témoignage de Bouna, qui est directeur d'école. Et bien sûr, vous continuez de nous appeler au 33 7 64 45 51 41. C'est notre compte WhatsApp, 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
C'est vous qui faites l'émission. On attend bien sûr vos réactions en cette journée internationale des professeurs de français. Et nous, on s'interroge, pourquoi apprendre le français en Afrique anglophone? Alors, c'est une question un peu en forme de boutade, de petite provocation. Mais j'aimerais d'abord peut-être qu'on fasse le point. On sort de plusieurs mois de pandémie sur le continent africain. À la pandémie, qui d'ailleurs n'a pas été la catastrophe qu'on avait annoncée, et heureusement, mais a succédé la crise économique, la récession économique. Jean-François Hans, quelle est la situation des alliances françaises en Afrique depuis l'arrivée du coronavirus?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles font preuve réellement de résilience. Elles ont été parfois plusieurs mois fermées. Ça a été le cas notamment au Nigeria. Aujourd'hui, elles réouvrent. Elles réouvrent avec toutes les mesures de sécurité et de distanciation nécessaires, avec des jauges réduites. Il faut faire en sorte que ces cours se passent dans les meilleures conditions de ce point de vue-là. Mais il y a véritablement un redémarrage à la rentrée après des mois de fermeture. Dans beaucoup de pays, ça a été le cas au Nigeria, ça a été le cas en Afrique australe, ça a été le cas au Ghana et dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, c'est un redémarrage avec véritablement l'espoir de redémarrer, tandis que c'était aussi développé dans cette région du monde des cours à distance. Ça a été aussi la grande nouveauté, c'est-à-dire la mise en place de cours qui n'existaient pas. Pratiquement pas dans cette région du monde.
Oui, il a fallu s'organiser. Aujourd'hui, les passages d'examen, par exemple, ça y est, c'est à nouveau remis en place ou pas?
Ça reprend place progressivement, effectivement, et ça va s'échelonner au premier semestre 2021. Il y a à nouveau un calendrier d'examen, il y a à nouveau des sessions qui seront organisées, notamment de certification, qui viennent toujours prolonger ou parachever un parcours. Donc, il y a bon espoir et il y a véritablement reprise. Encore une fois, on y croit, mais encore une fois, ça a été une période, c'est vrai, difficile.
Marc Boisson, pour les professeurs de français, alors, quels que soient les lieux où ils enseignent, alors bien sûr, les écoles primaires, les écoles secondaires ont fermé aussi leurs portes. Quelle a été la situation des professeurs de français ?
Une situation totalement inédite, bien évidemment, avec la nécessité, l'obligation du jour au lendemain, avec le premier confinement de la moitié de la planète au mois de mars, de passer du cours présentiel au cours en ligne. Cela veut dire que pour les enseignants du monde entier, pour les enseignants de français en particulier dont nous parlons aujourd'hui, la nécessité pour ceux qui ne l'étaient pas de s'équiper immédiatement, de parfaire leurs connaissances sur les technologies et l'utilisation de ces technologies pour l'enseignement du français. Et on voit que ça s'est réalisé de façon massive et nous sommes plutôt admiratifs de voir comment les enseignants ont été réactifs.
Muftaou Tidjani, vous au Nigeria, quelles ont été les réactions? Comment ça s'est organisé?
Oui, en vérité, la situation était comme partout dans le monde. Il y avait des confinements et beaucoup d'États, puisque le Niger est une fédération de 37 États, 36 États plus la capitale fédérale Abuja, la majorité des États avaient organisé des cours par radio et à la télévision pour enseigner les cours en général, mais surtout aussi le français.
Oui.
Donc, telle a été cette nécessité d'innover et de pouvoir continuer les cours même pendant la pandémie.
Ouais. Et c'est vrai que le digital, pour apprendre une langue, c'est extrêmement utile. Hein. C'est vraiment un changement de paradigme, Jean-François.
Complet, probablement. On a véritablement amorcé ce tournant du 21e siècle. On ne reviendra pas en arrière. Et ainsi, on double l'offre. On espère évidemment un redémarrage des cours en présentiel, c'est déjà le cas, c'est ce que je le disais, mais on va continuer bien sûr les cours à distance. Ils sont très utiles, on pense aux cours du soir, on pense à tous ceux qui sont éloignés, entre autres du réseau des alliances françaises, et qui découvrent qu'à distance, ils vont pouvoir suivre un apprentissage tout à fait comparable.
On peut avoir de l'écrit, on peut avoir de l'audio, avec des personnes qui sont natives d'un pays francophone, donc ça aussi c'est extrêmement important.
Ça c'est totalement important et nouveau, et véritablement un nouvel avenir qui se dessine pour l'apprentissage du français. C'est extrêmement encourageant.
Alors je le disais, au coronavirus a succédé finalement la crise économique, la récession sur le continent africain. Est-ce que c'est un problème pour vous au niveau des inscriptions? Parce que c'est pas donné de s'inscrire à l'Alliance française.
Non, et on voit bien qu'aujourd'hui le redémarrage se fait progressivement. On espère effectivement retrouver des niveaux d'inscription comparables. Il faut se souvenir qu'avant la pandémie, on a des taux d'inscription considérables. Nairobi en 2019, c'est plus de 3200 1200 étudiants. Accra, c'est plus de 3000. Lagos, c'est plus de 2000. On voit très bien qu'il y avait et il y a un engouement. Il faut absolument que ces apprenants de français puissent, à l'avenir, continuer à étudier le français.
Marc Boisson, pour les familles, aujourd'hui, assurer la scolarité des enfants, je pense notamment au secondaire, ça devient compliqué. L'éducation est de plus en plus coûteuse. La langue française, ce n'est pas forcément la priorité.
Alors, ce n'est pas nécessairement la priorité, mais en tout cas, c'est un plus important. Et on voit dans le monde que les parents sont sensibles à cet argument. C'est-à-dire que lorsque on planifie l'éducation de ses enfants, on sait bien que l'anglais est une langue vivante étrangère nécessaire, mais ensuite vient le choix d'une autre langue. Et le français permet souvent de faire la différence sur un CV. Donc ce n'est pas une première nécessité, mais c'est un investissement, si on peut le dire ainsi, d'avenir important.
Oui, on ne choisit pas le français pour lire des poèmes d'amour aujourd'hui.
Alors,
pas seulement.
Une petite frange, me dit-on à Nairobi, mais c'est vrai que c'est pour d'abord converser. Converser, ça permet de commercer. Commercer, ça permet de faire des affaires. Ça permet aussi de candidater pour des postes dans de grandes entreprises. Tandis qu'il y a véritablement un marché africain qui se développe et véritablement l'idée que ça va être un plus, sans omettre la nécessité aussi d'apprendre le français lorsqu'on veut intégrer un organisme international, l'Union africaine ou l'ONU par exemple. En tout cas, on voit très très bien qu'il y a cet intérêt-là et ça va jusqu'à ce que, par exemple, nous puissions même proposer, c'est au Ghana, un BTS bilingue qui forme des secrétaires et qui ainsi offre des débouchés professionnels.
Oui. Alors on va y revenir bien sûr à toutes ces raisons qui peuvent pousser les gens à choisir d'apprendre le français, qu'ils soient adultes ou qu'ils soient d'ailleurs encore enfants et c'est le choix de la famille. Juste pour en terminer avec les problèmes de la pandémie, la situation en Afrique du Sud pour les alliances françaises, parce que c'est le pays qui a été où la situation sanitaire a été la plus compliquée.
Oui, donc les informations que nous recevons font que il y a résilience, il y a certainement des difficultés, mais l'envie de résister et d'après nous, les alliances françaises vont s'en sortir parce que sur 2020, les résultats sont malgré tout satisfaisants, mais c'est vrai qu'on est préoccupé de tout ça. Il y a un dynamisme en Afrique du Sud, une sensation qu'il faut absolument résister à ces difficultés.
Alors pourquoi apprendre le français? Pour les études, les diplômes, le boulot, le commerce, l'amour ou tout simplement pour s'évader avec des mots en chanson comme celle de Ben Mazuet qui est tiré de son dernier album Paradis quand je marche.
Faut que j'envoie ces lettres, faut que je rappelle mon père d'abord, faut que je prévoie cette fête que j'ai promis de faire pour le disque d'or, faut que je pense à l'été, trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai, et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu, elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit, je vais répondre oui mais que je sais plus, puis faudra que je pense à samedi, j'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres, et dimanche on ira voir mon père, on regardera le match tous les quatre, pour ça faut que je l'appelle d'abord lui, puis cette fille à qui j'avais promis, déjà il y a 5 jours que demain, je la contacterai c'est certain, et que je lui donnerai mon avis, sur ce truc là qu'elle a sorti, un podcast sur les interdits, que j'ai trouvé d'ailleurs très bien. Et puis il faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau. Et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau. Ça va être nul et le pire, c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi, à qui en vouloir pour ça.
Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher. J'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever.
À côté de ça, il y a le silence de mes amis, à qui j'ai renoncé par amour, et qui me rappelle qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle, ni le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis, plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend tout court. Alors il y a l'amour des enfants, avec ça tu manques plus de rien. Moi je les aime tellement justement que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. À quoi sert vraiment l'exigence? Pourquoi on souhaite être excellent? Quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent. Moi je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. Je voudrais leur apprendre apprendre à être heureux souvent. Souvent. Mais ce que je veux pour ce que je veux, c'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est faites ce que je fais, pas faites ce que je veux, encore moins faites ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies. Et pour le reste, pardon, tant pis, pardon, tant pis, pardon, tant pis.
Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Qui semblait emmêlée, je m'y collais sans délai. Mes soucis prenez-les et l'angoisse tenez-la bien. Je vais shooter dedans comme elle vient. Faut que je marche parce que je comprends quand je marche. Faut que je marche parce que j'apprends quand je marche. Faut que je marche parce que je pense quand je marche. Parce que j'avance quand je marche. Parce que je rêve quand je marche.
On peut aussi apprendre le français avec des chansons. D'ailleurs, ça se fait beaucoup dans les cours. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des professeurs de français. Et c'est l'occasion pour nous de nous poser la question, pourquoi apprendre le français en Afrique anglophone? Nous en discutons avec Jean-François Arons, qui est délégué géographique Afrique, Océan Indien, Asie et Océanie à la Fondation Alliance Française. Également avec vous, Marc Boisson, vous êtes le secrétaire général de la Fédération Internationale des Profs de Français, la FIPF, qui coordonne cette fameuse journée. C'est la deuxième année consécutive, hein, Marc Boisson.
Deuxième année, effectivement. Et puis, il est important de préciser, on parlait de la situation que nous vivons sur toute la planète de la pandémie.
Oui.
Nous nous sommes vraiment adaptés à cette thématique et à cette nécessité pour les enseignants de changer leur modalité de cours du jour au lendemain, puisque la thématique de cette année s'intitule « Nouveaux liens, nouvelles pratiques, projet pour demain ». Et justement, ce que font les enseignants aujourd'hui et les comités nationaux, les comités dans chaque pays qui célèbrent en ce moment la journée internationale, qui la célébreront pendant 24 heures hein, dans l'ensemble du monde, c'est faire un point sur ce qu'ils ont mis en place, ce qui a été promu comme nouvelles techniques, comme échange et comme également éléments de solidarité pour faire face à cette crise et pour continuer l'enseignement entre enseignants, entre les enseignants aussi et leurs étudiants.
Oui, parce que c'est aussi la manière de faire vivre la langue française. Et on en discute aussi avec vous, Mouftaou Tidjani. Vous enseignez le français à l'université Amadou Elor à Azaria, dans l'état de Kaduna, dans le nord du Nigeria. Et je crois d'ailleurs que vous avez prévenu pas mal de vos collègues que vous passiez dans l'émission, Mouftaou Tidjani. Je rappelle notre compte WhatsApp, si vous souhaitez vous joindre à nous, les voisins et les voisines, si vous vous intéressez à l'apprentissage du français, si vous êtes enseignant, 33 7 64 45 51 41. On est en ligne avec un enseignant de français, Anani, bonjour.
Bonjour madame.
Anani, vous êtes professeur de français à Accra, au Ghana, c'est bien ça?
Justement, madame.
Alors vous êtes à la fois togolais par votre papa et ghanéen par votre maman.
Justement, madame.
Oui. On vous écoute, Anani.
En effet, je suis enseignant de français au Ghana. Mon papa est du Togo et ma maman est du Ghana. J'enseigne les élèves du cours primaire jusqu'au cours secondaire, précisément du CE2 jusqu'à 3e.
Oui.
Voyez, nous rencontrons quelques difficultés, souvent par la prononciation des mots, le vocabulaire, la grammaire. Souvent, l'influence des langues locales aussi fait problème, vous voyez.
Vous enseignez dans une école privée, j'ai l'impression que j'entends les élèves autour de vous, non, Anani?
Justement, je suis dans une école privée.
C'est ça, et vous êtes dans votre salle de classe, là, aujourd'hui?
Non, je suis isolé.
D'accord, mais vous êtes bien dans l'école, hein, c'est ça, on entend les enfants, il me semble.
Justement, nous sommes à l'école.
D'accord. Et vous êtes professeur de français depuis combien de temps?
Oui, ça fait banalement 15 ans.
15 ans? Ben non, c'est pas banalement. Oui. 15 ans déjà. Et vous, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes devenu professeur de français?
Pardon ?
Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes devenu enseignant de français à Nani ?
Oui, je suis professeur de français pour l'amour de la langue même, et puis l'objectif d'être, d'avoir un boulot. Justement ça.
Vous êtes venu au Ghana pour enseigner le français, vous viviez au Togo ou vous avez toujours grandi au Ghana, à Nani ?
Oui, oui, j'ai ma famille au Ghana.
Oui.
Oui, j'ai ma famille au Ghana et puis je me suis lancé dans cette vocation, vous voyez, non ?
Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi les familles veulent que leurs enfants apprennent le français dans votre école ? C'est une option, le français, ou c'est une langue obligatoire ?
Oui, ce n'est pas une option. Maintenant, ce n'est pas une option. Puisque nous sommes entourés par les pays francophones, le Ghana est entouré par les pays francophones, le Togo, le Burkina et la Côte d'Ivoire.
Oui.
Donc, ils ont cette raison pour, parfois, oui, ils peuvent voyager, et puis pour les raisons commerciales.
Mmh. Est-ce que les enfants sont motivés ?
Oui, vraiment, ils sont motivés. La plupart d'entre eux sont motivés. Souvent, en classe, ils sont motivés par les chansons, la récitation, de petits poèmes.
Mm-hmm.
Et souvent par les cadeaux, nous leur donnons de gifs,
mm-hmm.
de petits livres. Ils sont vraiment motivés.
Et vous, en tant qu'enseignant, Anani, quels sont vos principaux problèmes ? Vous nous disiez que finalement, la langue française n'était pas simple à enseigner.
Oui, souvent nous, dans l'espace anglophone, il y a d'autres langues locales qui influencent beaucoup sur le français.
Oui.
Par exemple, le twi, le gan, et puis d'autres langues locales. Puis l'anglais même aussi a parfois de l'influence. Et puis ils ont des difficultés à saisir le français.
Oui, parce que vos élèves parlent déjà tous, effectivement, non seulement l'anglais, mais parfois une ou deux langues africaines. Hein, donc, ils sont déjà tous trilingues. Alors, peut-être que ça facilite ou pas. Hein, je ne sais pas, Marc Boisson, quand on s'adresse à des publics comme ça qui sont déjà multilingues.
Je pense que ça facilite effectivement l'habitude de d'autres langues fait qu'on apprend plus facilement une nouvelle langue, effectivement, sans conteste.
Merci,
oui,
en tout cas.
Emmanuel,
Mouftao Tadjidjani au Nigeria.
Oui, je vais dire que la situation au Ghana est identique à celle du Nigeria, qui est un pays plurilingue, et où la pratique du français ne se fait pas tellement en dehors des salles de classe. Ça, c'est l'un des problèmes majeurs. Les étudiants sont en classe dans un contexte universitaire ou dans une classe secondaire ou primaire, et en dehors de la salle de classe, ils n'ont plus de contact avec le français, ne parle plus le français.
Oui.
C'est justement seulement dans un centre que nous appelons le village français du Nigeria, un centre d'immersion linguistique où les étudiants sont placés, situé à Badagry, où les étudiants sont placés dans un environnement francophile, disons, où ils sont encouragés à parler français tout le temps, à s'engager dans des activités en français.
Ouais.
Donc je vais dire que c'est le même problème ici.
Ça tient aussi, oui, mais sauf qu'au Nigeria, effectivement, vous êtes dans l'état de Kaduna, vous êtes à plusieurs heures d'une frontière francophone, si je ne me trompe pas, Mouftao Tidjani.
Oui,
ouais.
Oui, c'est vrai.
Alors que Anani, vous, à Accra, au Ghana, vous êtes beaucoup plus proche d'une frontière francophone. Est-ce qu'il y a, du coup, est-ce que vos élèves ont des liens avec des familles francophones ? Je pense, je ne sais pas, par exemple au Togo.
Oui, oui, ils ont des liens avec la famille au Togo. Ils ont des liens.
Donc vos élèves, vous n'êtes pas forcément la seule personne qui éventuellement leur parle français.
Non. Parfois, ils ont des familles à la maison, mais ce n'était pas nombreux. Et puis, c'est là l'un des majeurs des difficultés que nous rencontrons ici, dans la famille, ils n'ont pas de partenaire.
Oui, avec qui parler français.
Avec ça, le français.
Merci en tout cas, Nani, de nous avoir appelé. Merci, Mouftaou Tidjani. Vous restez bien sûr en ligne avec nous, hein, universitaire dans l'état de Kaduna, pour nous parler de l'enseignement du français. Alors, pourquoi est-ce qu'on apprend le français dans les pays d'Afrique anglophone? Marc Boisson, Jean-François Hans, vous nous le disiez, il y a vraiment des raisons économiques aujourd'hui.
Il y a vraiment des raisons économiques et des opportunités à saisir. Et c'est aussi véritablement ce qui ressort des sondages qu'on fait, pourquoi on vient apprendre le français dans une alliance française, parce que justement, sur le plan professionnel, elle nous apporte des débouchés indéniables. L'Afrique australe aussi nous rappelle que le marché africain, c'est un marché considérable et que avec plus de 116 millions de locuteurs francophones, on va avoir dans 30 pays du continent des opportunités qu'il ne faut pas laisser passer. Le français est réellement un atout majeur.
Des pays comme l'Angola, des pays comme la Zambie par exemple, qui sont frontaliers avec la République démocratique du Congo, immense réservoir de francophonie.
Absolument, on a aussi le Zimbabwe, on a véritablement des chiffres tout à fait impressionnants. Les alliances françaises passent des accords et des partenariats, et signent des partenariats avec des écoles publiques, et on a des chiffres qui font que, par exemple, l'alliance française de Bulawayo, en 2019, nous propose plus de 10 000 étudiants parce qu'elle a su être l'opérateur, celui qui pouvait proposer, l'alliance qui pouvait proposer des cours à des écoles hors les murs. Donc c'est évidemment très important. Il y a peut-être un aspect aussi, c'est la question du recrutement des enseignants, elle
alors,
est importante.
Là, vous nous disiez qu'il y a des accords. Ça veut dire que la volonté politique, elle est aussi à la base de la vie de ces alliances françaises.
Absolument. Il faut évidemment encourager
ces partenariats.
Ce n'est
pas seulement des stratégies personnelles.
Non, absolument.
Parce que si on veut développer l'offre, il ne s'agit pas seulement d'avoir envie d'apprendre le français, il faut avoir une offre.
Il faut avoir une offre, absolument. Et beaucoup d'alliances françaises ont des offres et se dirigent vers les écoles et les universités en leur disant « Nous avons des offres à vous faire dans le domaine de l'enseignement avec des professeurs formés » et c'est souvent l'occasion de développer ces cours.
Mouftaou Tidjani, sur la volonté politique des pays, je pense à votre pays, le Nigeria, ça a été, il y a eu des hauts et des bas hein, dans la compréhension de l'intérêt de proposer une offre en français. Mouftaou Tidjani, est-ce que vous êtes toujours en ligne avec nous?
Oui. Vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. Je disais, nous parlions de la volonté politique dans vos pays respectifs hein, de décider d'établir des partenariats, de soutenir les enseignants de français pour proposer davantage d'offres aux familles, aux individus qui veulent apprendre le français. Mais en fonction des époques, ce n'est pas toujours le cas, non?
Non, la ligne n'est pas très bonne, mais je vais essayer de répondre. Oui, c'est qu'au Nigeria, ici, la situation du français a eu de différentes péripéties. Il y a eu des moments où le français était bien enseigné, il y avait un véritable engouement. Il y a eu des moments aussi, dans les années 80, où la crise économique et aussi la politique nationale d'éducation qui soutenait l'enseignement des langues nationales a aussi un peu freiné l'apprentissage du français. Mais de nos jours, depuis aussi, il faut aussi mentionner dans l'histoire du français au Nigeria, la déclaration du feu président Abacha, qui avait fait du français une deuxième langue officielle, mais disons que c'était une affirmation verbale qui n'a pas eu d'effet et qui ne tient pas compte des réalités du pays et qui n'a pas plus sa place aujourd'hui. Oui. Mais en ce qui concerne les raisons pour l'apprentissage du français, je peux dire que compte tenu de la richesse économique du Nigeria, il y a pas mal de compagnies qui sont installées dans les pays francophones voisins du Nigeria et en Afrique, et des banques, des sociétés comme Dangote, par exemple, de la cimenterie Dangote. Oui. Et beaucoup de Nigériens sont intéressés à travailler dans ces industries, dans ces compagnies en dehors du Nigeria, et beaucoup d'entre eux apprennent le français. Et surtout dans les alliances françaises, au village français, et parfois aussi dans des cours organisés pour des privés par certaines universités.
Oui, évidemment, ça compte avec le développement de ces grandes entreprises africaines. Ça compte de maîtriser à la fois le français et à la fois l'anglais. Et vous nous disiez d'ailleurs tout à l'heure, Jean-François Hans, que c'est la même chose pour travailler dans des organisations internationales ou de grosses ONG d'ailleurs, hein, sur le continent africain.
Absolument, c'est pour ça que je faisais allusion à ce BTS porté par l'Alliance française d'Accra. qui forment des secrétaires bilingues. Et si les trois quarts des étudiants de ce BTS sont ghanéens, le dernier quart vient des pays francophones environnants. Donc il y a véritablement...
Et qui ont besoin d'une certification dans ces cas-là.
Hein,
de pouvoir prouver qu'ils maîtrisent bien le français à l'écrit comme à l'oral. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. C'est la journée internationale des professeurs de français. On accueille un voisin qui est à Conakry, à Djibousso.
Oui.
À Djibousso, vous êtes à Conakry, en Guinée-Conakry, c'est bien cela?
Exactement.
Oui. Vous êtes en zone francophone. Néanmoins, vous enseignez le français dans un établissement privé qui est bilingue, c'est bien ça, français-anglais?
Exactement, un établissement bilingue, Harounaya International.
Oui.
Et là, on a deux départements. Un département francophone qui se focalise sur les programmes de Guinée, donc en français, de la maternelle à la terminale. Et un programme anglophone qui se focalise sur les programmes léonais, de la maternelle à la terminale.
Donc de Sierra Leone.
Oui.
Mmh. Et donc ça veut dire que pour ces élèves, pour ces enfants, donc que ce soit pour le primaire ou le secondaire, il faut apprendre le français de façon un peu formelle, même si là pour le coup ils entendent la langue française dans leur environnement à Conakry.
Oui, c'est là que c'est différent avec mes collègues ghanéens et nigériens. Oui. Pour les anglophones vivant en Guinée, déjà le français est une langue du milieu. Donc ils apprennent le français en dehors de l'école. En plus du fait que nous leur donnons des cours de français, et ça facilite le parler du français, ça facilite la compréhension du français pour ces élèves anglophones vivant en Guinée. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui pousse beaucoup de parents à scolariser leurs enfants chez nous, comme quoi ils sont anglophones, ils vont continuer un cursus anglophone, mais au final, ils deviennent bilingues parfaits.
Mmh. Parce qu'il y a aussi dans l'idée de ces familles que le marché du travail, la porosité des frontières, etc., fait qu'on ira travailler indifféremment d'un côté ou l'autre en zone anglophone ou en zone francophone, non, et qu'il faudra qu'on soit adaptable partout.
Oui, et surtout que maintenant, au sein de la CEDEAO, le travail est complètement dépénalisé au niveau des frontières. Eh bien, un Léonais peut travailler en Guinée, tout comme un Guinéen en Sierra Leone, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une forte nécessité, que ce soit pour les Guinéens d'apprendre l'anglais, ce qui se fait dans notre établissement, que pour les Léonais d'apprendre le français. Donc, il y a une symbiose, il y a une symbiose entre les deux groupes linguistiques au sein du même établissement, et l'environnement est créé, les enfants y sont ensemble, ça facilite leur interaction et ça facilite la communication, que l'on soit francophone ou anglophone.
Merci à Djibousso de nous avoir appelé. Je voudrais qu'on aborde quand même un vrai problème, c'est la pénurie des enseignants de français. Marc Boisson, est-ce que vous constatez cette pénurie, tout comme d'ailleurs la pénurie d'enseignants en général sur le continent africain ?
On la constate effectivement. Hein. Nous avons, alors, au point de vue global, mondial, il y a actuellement, d'après les chiffres de l'Organisation internationale de la francophonie, 800 000 professeurs de français dans le monde. Et nous savons que dans les 20 prochaines années, nous aurons besoin au moins de 200 000 professeurs supplémentaires, et en grande partie en Afrique, puisque le nombre de locuteurs augmente énormément sur ce continent. Je crois que les chiffres de l'OIF, je sais que les chiffres de l'OIF disaient que déjà en 2018, 60% des locuteurs quotidiens du français étaient en Afrique, et ça ne fait qu'augmenter. On sait que l'Afrique est le présent et l'avenir du français, et que donc cette arrivée massive d'apprenants fait que
La ligne
se fait. Allô ?
Oui.
Vous m'entendez ?
Oui, allez-y, monsieur Boisson.
Non, je disais donc, effectivement, je confirme ce que vous disiez, la nécessité d'enseignants est de plus en plus grande, et notamment en Afrique.
Moufta Outidjani, au Nigeria, il y a une pénurie de professeurs de français ?
Évidemment, oui. Au Nigeria, on constate une répartition inégale du nombre de professeurs dans les États. Vous savez, je répète, vu que le Nigeria est un pays, est une fédération, dans certains États, surtout au sud et au sud-est, il y a assez de professeurs, mais au nord, surtout au niveau secondaire. Disons qu'au Nigeria, le français est enseigné officiellement au niveau secondaire et à l'université, et dans certains centres que nous appelons les collèges d'éducation. Et cette pénurie n'est Ici, au nord du Nigeria, le français est en ballottage avec la langue arabe. Mm. Vous savez, le nord est un monde à majorité musulmane. Et donc, il n'y a pas assez vraiment de professeurs de français dans beaucoup d'écoles secondaires ici. Dans les universités, ça va un peu mieux. Il y a un certain engouement, il y a des professeurs, pas assez, mais quand même, il y en a pour maintenir l'enseignement du français.
Il faut dire aussi que ce n'est pas un métier qui attire, hein, le métier d'enseignant, alors pas spécifiquement d'ailleurs les enseignants de français, mais il y a beaucoup de précarité. Les enseignants de français, comme ils ne sont pas assez nombreux, ils font beaucoup d'heures, ils ne sont pas bien payés. Qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer ce statut, Marc Boisson ?
Vous avez raison hein, de dire qu'ils sont dans une situation de précarité. Effectivement, on peut dire que les artistes courent les cachets, les enseignants de français dans le monde, de par cette précarité, sont obligés de courir les contrats, on va dire. Mais alors, c'est un problème, effectivement, pour éveiller des vocations. Mais nous y travaillons à la Fédération internationale et avec les associations. Nous avons un appel à projet important cette année, justement, sur cette question de comment faire, comment les associations peuvent-elles participer partout dans le monde à encourager les jeunes à opter pour ce métier d'enseignant de français, qui est un métier, certes, dans la précarité, comme on l'a dit, mais un métier de passion. Et là, je voudrais rebondir sur ce que l'on disait sur la vitalité économique du français, qui est évidemment extrêmement importante. Je rejoins mes collègues. Mais lorsque on lit les enquêtes également du choix du français, il se fait beaucoup par envie, oui, par le goût de la langue, de la culture française et des cultures francophones. Et quand on écoute les collègues, ceux qui sont intervenus aujourd'hui en Afrique et partout dans le monde, c'est ce terme de passion, moi, qui me vient à l'esprit. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui.
Justement, je voulais poser la question à Mouftaou Tidjani, qui est professeur en université, qui forme aussi peut-être de futurs enseignants de français. Qu'est-ce que c'est pour vous, Mouftaou, un très bon prof de français ?
D'avoir un très bon prof de français, c'est d'avoir une personne qui aime la langue française et qui comprend bien la langue française, qui maîtrise bien la culture et la civilisation française, et une personne qui est prête à transmettre toute cette connaissance, cet amour, cet engouement pour le français à une génération qui va prendre le relais après.
Oui.
C'est ça,
pour ceux de français
pour moi.
Et Dieu sait que c'est important. Je crois que les jeunes ont bien entendu le message. On va manquer de plusieurs centaines de milliers de professeurs de français dans les années à venir sur le continent africain. Jean-François Hans de la Fondation Alliance Française.
Oui, et donc la formation va prendre, va jouer un rôle décisif, une part considérable. Et alors, c'est aussi un message optimiste que j'aimerais délivrer. De la même façon qu'au début de l'émission, on parlait des cours en ligne, il faut parler de la formation en ligne. Il y a aujourd'hui des dispositifs qui permettent d'organiser des sessions de formation à distance grâce à des webinaires, grâce à des plateformes. Et je crois que c'est l'avenir et c'est aussi ça. Passion doit être conjuguée aujourd'hui avec nouvel apprentissage du français. Et il y a un grand espoir. Et en tout cas, dans le réseau des alliances françaises, la formation, c'est notre priorité.
Ouais, alors, je ne résiste pas, puisque vous parliez du digital, pour vous signaler aussi le podcast RFI pour apprendre ou perfectionner son français. Les voisins du 12 bis, je ne sais pas si vous connaissez ce feuilleton, Mouftaou Tidjani, feuilleton radiophonique. Exactement. Un feuilleton en ligne où vous suivez Billy, qui est une jeune étudiante étrangère fraîchement arrivée dans un immeuble parisien. Et donc, toutes les semaines, il y a un nouvel épisode. Hein. Et le podcast est à écouter en franco-anglais donc, et franco-persan, pour le moment, hein, sur le site RFI Savoir. Il y a des exercices pour apprendre le français, basés sur les scènes, évidemment, de chaque épisode. Hein, on en parlait, c'est toute la richesse du digital aussi. Et puis, des fiches pédagogiques pour les enseignants de français. Je vous remercie, en tout cas, tous les trois d'avoir participé à l'émission. Marc Boisson, merci à vous. Secrétaire général de la Fédération internationale des professeurs de français, la FIPF. On vous souhaite une très belle journée internationale des professeurs de français.
Merci à vous, merci beaucoup et je salue toutes les enseignantes et les enseignants de français en leur journée.
Voilà, et qui font vivre cette langue. Jean-François Hans, vous êtes délégué géographique Afrique, Océan Indien, Asie et Océanie à la Fondation Alliance Française. Et Mouftaou Tidjani, enseignant à l'université Amadou Elor à Azaria, dans l'état de Kaduna, dans le nord du Nigeria. On vous souhaite, vous aussi, une très belle journée des professeurs de français et bravo à vous aussi, Mouftaou Tidjani.
Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, RFI. vive le français dans le monde, vive l'association des professeurs de français dans le monde. Merci beaucoup.
Le message,
merci
est,
à vous. Merci
le message
à vous.
Est bien passé. Demain, à 7 milliards de voisins, on parlera de l'industrie du luxe. Tiens, voilà un secteur où il est utile de parler français. Et d'une toute nouvelle jeune clientèle en Asie, les moins de 25 ans. Oui, j'ai bien dit les moins de 25 ans. Avec quel pouvoir d'achat, ça c'est. On en parlera évidemment durant l'émission de demain. C'est à la même heure, à 10h10, temps universel. Et dans quelques instants, nous retrouvons les conseils aux parents du psychologue Ibrahim Agirou. Aujourd'hui, les questions de l'autorité à distance pour tous ceux qui vivent éloignés de leurs enfants. Mais ça sera juste après. Manu, écoute ça. Voilà.
Ouh. Le lion est parti. Mais avant de partir, le lion a nourri ses enfants.
Manu, écoute ça. On essaie de faire comme toi.
Le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Et nous retrouvons le psychologue Ibrahim Agirou à Dakar. Bonjour Ibrahim Agirou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes à Dakar grâce aux moyens techniques de RFI Mandincamp et Full Day. Vous êtes psychologue, vous collaborez à l'UNICEF. Aujourd'hui, comment assurer une autorité quand on vit éloigné de ses enfants parce que, par exemple, on a émigré dans un autre pays, Ibrahim Agirou. Une question que se posent beaucoup de papas et de mamans.
Tout à fait, Emmanuel. Nous sommes en effet dans le quotidien de millions de parents dans le monde qui ont le sentiment de ne pas y arriver. Je peux juste citer ce monsieur D que j'ai reçu au cabinet et qui se plaignait de passer tout son temps entre les avions pour assurer un bel avenir à ses enfants. Mais il se plaignait également, M. D, de ne pas assez participer à l'éducation de ses enfants. Et on voit ici la fausse croyance qui peut parfois habiter les parents. Ils se disent, si j'avais beaucoup de temps avec mes enfants, je les éduquerais mieux. Mais ce que je vais vous dire, Emmanuel, vous paraîtra peut-être contre-intuitif. Si un parent n'est pas bon avec le peu de temps, il aura peu de chances d'être bon avec le beaucoup de temps. Il suffit pour s'en rendre compte de voir toutes les plaintes des parents pendant la pandémie de Covid-19. On avait beaucoup de temps avec les enfants et on ne savait pas quoi faire.
Alors, comment exercer cette autorité à distance si l'éloignement et le manque de temps ne sont pas précisément au cœur du problème?
Disons, trouvons d'abord les bonnes questions. Pour moi, en tant que parent, quelles sont les valeurs que je voudrais partager avec mes enfants? Bien entendu, il faut en limiter le nombre. On a déjà vu, s'il y a beaucoup de choses à enseigner, on a peu de chances de les enseigner avec efficacité. Ensuite, quelles sont les opportunités que la distance me donne et qui sont des avantages comparatifs pour aider le parent, qui soit divorcé ou pas, mais qui est resté avec les enfants? Une toute petite parenthèse, si vous permettez, Emmanuel, pour dire que le divorce n'est pas la fin de la famille dès lors qu'il y a des enfants. Donc, si vous vivez éloigné de vos enfants, économisez et préservez votre parole. La parole est précieuse si elle est rare et utile. N'essayez pas la violence verbale à distance, en croyant qu'elle garantit votre autorité. Non. Éloignez-vous plutôt des deux extrêmes, comme l'hyper-permissivité, donc l'enfant peut tout faire, ou le dirigisme, où l'enfant doit vous obéir au doigt et à l'œil.
Mais en même temps, Ibrahima Girou, le parent à distance, il est du mauvais côté vis-à-vis du reste de la famille, parce qu'il n'est pas là, justement. Alors comment le parent à distance peut avoir un impact sur les enfants et sur toute la famille ?
Le plus important, c'est de toucher le cœur de vos enfants. Et il y a plusieurs façons de le faire à distance. Faites en sorte de créer avec eux la certitude que quand vous appelez, vous co-créez avec eux un moment de bonheur. Demandez par exemple à parler à tout le monde, y compris même les bébés. Demandez comment ils vont. Tout ça crée une ambiance, crée un certain bonheur qui est associé avec votre appel. Demandez comment ça va. Et ne racontez pas toujours les mauvaises choses qu'on vous a racontées sur vos enfants.
Et donc on ne dit pas, ta maman m'a dit, tu as fait une bêtise, c'est pas bien. Mais ça veut dire qu'il ne faut jamais aborder les problèmes et les sujets qui fâchent? C'est un peu facile.
Il y a plusieurs façons d'aborder les choses qui fâchent. Dans les histoires, les contes que l'on raconte, ça n'aborde que les sujets qui fâchent, mais ça les retourne tout simplement en utilisant un style plus valorisant et plus protecteur de la personnalité et de la dignité des enfants qui écoutent. C'est-à-dire que l'enfant à qui on fait les reproches, il a quand même une certaine dignité. On doit préserver sa dignité. Donc, vous voyez, il y a des styles qui rendent plus facile, plus acceptable les propositions morales quand le parent à distance parle, parce qu'il doit préserver son autorité vu qu'il n'est pas présent justement. Et puis, le tout n'est pas tant d'aborder les sujets qui fâchent quand on appelle ses enfants. Il faut bien mesurer les chances qu'on a de transformer son enfant et d'induire, Emmanuel, les comportements positifs que l'on souhaite. Si ces chances sont minimum, alors il ne faut pas les gâcher. Et il faudrait arriver à se dire qu'on n'a pas assez créé de dialogue et de zones vertes avec son enfant.
Vous parlez de zones vertes, Ibrahima Girou. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oui, tout à fait, Emmanuel. Un espace vert où les choses sont possibles. Pas seulement des interdictions, mais que le rêve devienne possible. Le parent est le meilleur et le plus grand espace vert pour son enfant. Avec lui, les enfants doivent voir les milliards de choses qui sont licites, qui sont légales, qui sont légitimes, qui sont permises et qui sont magnifiques. Et quand cet espace est suffisamment grand et que le dialogue avec votre enfant arrive à maturation, vos lignes rouges, vos interdictions deviennent évidentes et acceptables car en réalité elles sont peu nombreuses et évidentes dans l'espace vert.
Oui.
Vous pourrez garder votre autorité fraîche et surtout transformatrice.
La question de la semaine, Ibrahima Girou, sur l'autorité à distance, quelle est-elle?
Alors Emmanuel, comment amener mon enfant à accepter plus facilement mon autorité? Si j'en doute moi-même ou que je l'utilise, cette autorité, pour punir davantage que pour faire grandir.
Merci Ibrahima Girou. Tous ces conseils, toutes ces chroniques sont à retrouver sur RFI.fr, à la page des 7 milliards de voisins, à réécouter en podcast et sur les plateformes de téléchargement. Merci à vous. Et merci à toute l'équipe qui prépare chaque jour cette émission. Cette semaine, Juliette Brault, Elsa Oleizola, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Et bien sûr, vous réécoutez toutes nos émissions en podcast sur les plateformes de téléchargement, mais aussi sur RFI.fr, à la page des 7 milliards de voisins. Et on reste en contact jusqu'à l'émission de demain, y compris toutes les fins de semaine sur nos réseaux sociaux, sur le compte Instagram 7 milliards RFI, le compte Twitter et la page Facebook.